Partage, une émission contre toutes les cages.
Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage
contre toutes les cages.
Bonjour, vous êtes bien sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois sur Radio Libertaire. Donc pour commencer, on va se présenter. Moi, c'est Kate.
Salut, c'est Alix.
Et à la technique.
Salut, c'est Pile.
Ce soir, on va faire une émission sur les JO et notamment sur l'aspect sécuritaire et gentrification des JO. Mais on va commencer d'abord par quelques petites brèves. Et juste avant les brèves, peut-être juste sur comment nous contacter. Vous pouvez nous contacter pendant l'émission au 01 46 43 71 89 40. Voilà, pendant les musiques, c'est mieux. Et sinon, on a un blog, carapatage.noblogs.org, un Instagram, @carapatage, et une adresse mail, carapatage@riseup.net. Et donc, on va commencer sur des brèves d'actualité, et c'est Alix qui va nous parler des annonces de construction de nouveaux CRA.
Ouais, du coup, c'était bon. On commence par une nouvelle pas très bonne, mais du coup, il y a eu une annonce d'un nouveau CRA, donc un centre de rétention administratif où ils enferment les étrangers, qui doit être construit à Béziers pour une ouverture prévue en 2027. Ils annoncent 120 places dans ce nouveau CRA, du coup, qui se rajoutera à celles déjà existantes et au projet. De nouveaux CRA aussi qui sont en cours, qui existent déjà.
Moi, je vais continuer sur un récit d'action qui a eu lieu en solidarité avec Alfredo Cospito et contre le 41 bis à Paris, donc qui s'est passé le 20 avril. Il y avait un festival italien à Paris, et à cette occasion, il y a une vingtaine de personnes qui sont allées perturber deux conférences. Donc, je vais lire un extrait du tract qui a été lu et distribué au public. Les passions italiennes pour l'enfermement et la torture. L'État italien enferme actuellement plus de 700 personnes dans un régime pénitentiaire particulièrement dégueulasse, le 41 bis. Au nom de la lutte contre la mafia et contre la subversion, les prisonniers et prisonnières au 41 bis doivent rester dans des cellules individuelles 22 heures sur 24 et ont droit à un seul parloir par mois d'une heure. Presque impossible de recevoir des courriers, de la bouffe, pas même des livres. C'est une prison dans la prison, c'est une torture d'État à la sauce démocratique. Comme c'est pour les mafieux et pour les terroristes, de l'existence du 41 bis, tout le monde s'en foutait. Mais le 20 octobre 2022, un prisonnier au 41 bis s'est mis en grève de la faim. On parle d'Alfredo Cospito, un prisonnier anarchiste qui a décidé de lutter contre cette torture. Il a décidé de lutter avec toutes ses forces et d'aller jusqu'au bout, au prix de sa vie si nécessaire. Il en est actuellement à plus de 180 jours. Et donc, c'est précisé que, en fait, ça a été dit à l'oral aussi qu'il a actuellement arrêté sa grève de la faim. Alternant les passages entre l'hôpital et le 41 bis, dont on lui refuse la sortie à tous les niveaux de l'État. Alors, depuis octobre, on a vu des manifs, des actions et des mobilisations contre le 41 bis et en soutien à Alfredo en Italie et dans le monde. Mais on n'est pas dupe, avec ou sans le 41 bis, auquel l'État italien n'a pas l'air de vouloir renoncer. Il y a d'autres moyens d'isoler en prison, et parfois jusqu'à la mort, avec les condamnations à perpétuité, ce que vit aussi Alfredo Cospito, condamné à perpétuité. En France aussi, l'État enferme dans des régimes d'isolement, comme l'a rappelé une grève de la faim de Libreflot l'année dernière. Toute notre solidarité avec Alfredo Cospito et avec les personnes qui ont fait cette action. Et donc, Alix, tu vas continuer en nous faisant un retour de la manif d'Armanin qui a eu lieu.
Ouais, donc lors de la dernière émission, on avait annoncé qu'il y avait une manif qui était prévue contre la loi Darmanin le 29 avril. Enfin, même plusieurs manifs, une manif à Paris, mais il y avait aussi des manifs ailleurs en France. Donc ces manifs, c'était à la fois pour lutter contre la loi Darmanin. Donc énième rebondissement, la loi Darmanin, a priori, va être repoussée son étude à cet automne. Plein de fois, ça, voilà, on fait des points un peu à chaque émission, mais en ce moment, ils changent un peu les annonces autour de ça très vite. Donc cette fois-ci, ça semble à peu près sûr que ça ne va pas être étudié tout de suite, mais étudié à l'automne. Et donc ces manifs, elles étaient contre cette loi, mais aussi contre l'expulsion, l'opération qui a lieu à Mayotte en ce moment. Du coup, c'était aussi pour protester contre ça. Il y a eu plus de 3000 personnes à Paris. Il y a eu plusieurs centaines de personnes à Rennes, à Strasbourg et à Nîmes aussi. Voilà.
Oui, et du coup, moi, je vais continuer en parlant de l'opération Wambushu à Mayotte. Donc, on avait parlé dans l'émission précédente. Et donc, et c'était avant que cette opération commence. Donc, pour rappel, c'est une opération qui vise à expulser des milliers de personnes qui n'ont pas les bons papiers à Mayotte, et notamment des personnes qui viennent des Comores, et de raser des bidonvilles et des habitations qu'il y a sur tout le territoire où ces personnes pouvaient habiter. Et donc, avant même. Et donc pour cette opération, il y a énormément de forces de l'ordre qui ont été déployées. Donc il y a eu 500 gendarmes qui ont été envoyés en plus des 1350 déjà présents. Il y a la CRS-8 qui est spécialisée dans les violences urbaines. Il y a le RAID qui est utilisé. Il y avait un déploiement énorme des forces de l'ordre. Et depuis qu'elle a commencé, donc avant même le début le 23 avril, il y avait déjà 600 grenades lacrymogènes, 85 grenades de désencerclement et 60 tirs de LBD qui avaient été tirés dès le jour avant le début de l'opération. Et là, récemment, il y a eu des policiers qui ont utilisé des balles réelles et qui ont tiré vers le sol. Et donc, il y a notamment une personne qui a été blessée par balle par la police à Mayotte le 27 avril dans le cadre de cette opération. Donc la police a tiré sur plusieurs personnes, dont ce jeune de 17 ans qui a reçu une balle dans le mollet et qui après a été placé en garde à vue pendant 2 jours et placé sous contrôle judiciaire, et il est poursuivi pour participation à un attroupement armé. Et donc voilà, c'est, on s'en doutait, mais voilà, c'est la violence, il y a extrêmement de violence de la part de la police pendant cette opération, et c'est aussi Mayotte, c'est aussi un endroit où l'État français teste aussi d'autres moyens répressifs qui après peuvent être exportés plus tard en France, dans la métropole, mais voilà, c'est toujours ces territoires, c'est toujours des endroits où la police était déjà particulièrement violente et où il y avait déjà des opérations d'expulsion particulièrement violentes, et voilà, c'est dans la continuité de ce qui se passait déjà avant. Et Alix, tu vas continuer en nous parlant de l'expulsion de Unibéton.
Oui, donc il y a eu un gros squat qui a été expulsé le 26 avril. Donc c'est un squat où il y avait plus de 400 personnes qui habitaient, qui étaient là depuis le printemps 2020. Donc ce squat, il est situé à l'île Saint-Denis, dans une ancienne cimenterie, à proximité du site où doit être construit le village olympique. C'est pas directement sur le site concerné par le village olympique, mais c'est vraiment juste à côté, et où il y a un projet d'éco-quartier, mais qui n'est pas du tout commencé à l'heure actuelle, qui aura lieu probablement plus tard après les JO. Donc cette expulsion, elle était un peu annoncée. Il y a eu une grosse opération de CRS qui sont rentrés, je pense bien, bien une centaine de CRS casqués qui sont rentrés dans le squat, dans le bâtiment pour le vider petit à petit. Eux, ils communiquent beaucoup sur le fait que les gens ont été relogés. Qu'est-ce qu'ils appellent relogés ? C'est un peu ça la question. En réalité, les gens, il y a eu un tri dans la cour, pas sur la situation administrative directement, mais déjà pour savoir qui pouvait prétendre à un hébergement à Paris et qui allait être envoyé en région. Donc c'était, est-ce que les gens, ils ont des attestations qui montrent qu'ils travaillent ou qu'ils suivent une formation professionnelle sur Paris ? Ça, c'était les motifs que eux jugeaient pertinents pour que la personne soit hébergée en Île-de-France. Et au début du mois, c'était ça. Sinon, les gens étaient dans des bus pour les conduire à Toulouse. Et après, sinon, il y avait des bus dans différents endroits d'Île-de-France. C'est ce qui était annoncé. Il y a des gens qui ont quand même été emmenés loin. Il y a aussi des gens qui ont été logés dans un camping de mobilhome près d'Amiens. Donc, on voit un peu ce qu'ils appellent relogement. Il y a aussi eu des gens qui n'ont pas eu de solution proposée. Et notamment des gens qui avaient refusé d'aller à Toulouse au début quand ils remplissaient les bus pour Toulouse, alors qu'il restait des places après pour les autres bus en Île-de-France et qu'il restait des places d'hébergement en Île-de-France, mais où la préfecture a dit non, si vous avez refusé Toulouse, c'est un refus de prise en charge. Et du coup, refus de prise en charge, donc c'est pas notre problème que vous vous retrouvez dehors. Après, les solutions d'hébergement qui sont proposées, c'est plus ou moins long. Ça sera a priori pas très long de toute façon. Il y a des gens à qui on a déjà demandé de partir. Il y a des gens à qui on a dit que ça allait durer plusieurs semaines, voire plus longtemps. Et il va y avoir là, par contre, des tris de situation administrative une fois les gens hébergés. Du coup, voilà. Donc, toute la communication qui est faite autour du relogement, c'est quand même beaucoup de la com, plus que réellement des vrais relogements. Mais ça, c'était attendu. C'est un peu comme ça que ça se passe. Enfin, c'est souvent comme ça que ça se passe quand il y a des expulsions. Et voilà, pour tout, on en reparlera de toute façon de cette expulsion un peu plus loin dans l'émission, comme on va parler des JO, et que c'est quand même lié. Enfin, on peut penser que les gens n'ont pas pu rester aussi plus longtemps dans le squat, enfin, qu'il y avait un enjeu autour du fait que ça allait pas bien le faire, qu'il y ait un gros squat de migrants aussi proche du village olympique. Et c'est aussi une opération de Darmanin. Enfin, c'est un peu la même chose que toutes les brèves là dont on parle, l'opération à Mayotte. Enfin, on voit bien que aujourd'hui, il y a une volonté d'afficher de la fermeté plus généralement et de se remettre à parler de l'immigration beaucoup, de faire un peu les gros bras de la part du gouvernement, quoi, de gonfler les muscles sur ces sujets-là.
Avant de continuer sur les JO, peut-être qu'on écoute une petite musique et on va écouter Foutre le feu de Elliot MC.
Comme crier dans un tube, quand ton estime de toi a pris la fuite, ton manque de confiance a pris la suite. Lui a toujours l'air serein quand toi t'as l'air sûr de rien. Ce connard s'en sort bien, ne sent rien. Privilège du sourire quand toi tu dois être saoul pour rire. Avec 2, 3, 8, 6 dans le gosier, pousse la plus belle des orties dans le rosier. Atténuer le mauvais temps, perpétuer le compromettant. Sale image, magistralise, sale gauche, atroce caboche. Traîne les pieds pour pas se lever, pas se laver tous ses péchés. En péché, forcé à trébucher. Plus jamais la vie, je te jure, je veux la bouffer. Pas peur, pas perpétuer notre espèce. Détonner tant d'années passées, bétonner, capitonner. Capituler, j'aurais pu jamais plus cantonner. Quand on est assigné, insigné notre intégrité. Et s'il faut foutre le feu, on le fera. Niquez vos codes et vos lois. Mangez vos morts et vos rois. S'il faut foutre le feu, on le fera. Et s'il faut foutre le feu, on le fera. Niquez vos codes et vos lois. Mangez vos morts et vos rois. Et s'il faut foutre le feu, on le fera. Et s'il faut foutre le feu, on le fera. Pour mes gossures en manque d'ego, prêtes à faire des dégâts. C'est pour mes diaboliques acolytes, délire pas très catholique. Éteint ton écran cathodique, on s'a dit qu'on est venu tout niquer. Fat de cap fatal, fin fondé en fin de soirée. Brise vitre en sautoir, ce soir on fait la déco, agissez déco. Cache-cache avec la police, on crache-crache sur la politesse. Policiers, ils nous voudraient, mais nous on s'en calise. Attise notre haine des uniformes, ils nous voudraient tout uniforme. Mais nos rêves sont trop grands pour leur triste réalité. Je vomis sur Johnny Hallyday. Je me ferai jamais à l'idée de rester alité. Et s'il y a plus rien, on ira servir. C'est bien mieux que se laisser asservir. On connaît les rayons du bio, mieux que notre biographie. Les poches pleines, on pourrait manquer de rien. Remplir nos sacoches, ça demande l'air de rien. Et s'il faut foutre le feu, on le fera. Niquez vos codes et vos lois. Mangez vos morts et vos rois. Et s'il faut foutre le feu, on le fera. Et s'il faut foutre le feu, on le fera. Niquez vos codes et vos lois. Mangez vos morts et vos rois. Et s'il faut foutre le feu, on le fera. S'il faut foutre le feu, on le fera.
Vous êtes de retour sur Carapatage, donc on va continuer sur la, enfin on va commencer sur la thématique de ce soir qui est sur les JO et le contrôle. Donc en fait ce soir on voulait parler des JO qui vont avoir lieu à Paris en 2024 et en fait il y a plein de raisons de lutter contre ces JO, que ce soit pour lutter contre la destruction de l'environnement avec la bétonisation notamment de parcs et de jardins qui va y avoir ou qui a eu, que ce soit pour lutter contre cette vision du sport compétitive et nationaliste qui vise d'abord à assurer le profit des fédérations ou encore lutter contre les conditions de travail et d'exploitation qui sont sur les chantiers, qui sont des machines Afrique pour les entreprises du BTP et qui emploient massivement des travailleurs étrangers avec et sans papier et qui pour finir les chantiers dans les temps mettre une grosse pression sur les travailleurs pour travailler toujours plus dans des conditions risquées. Mais ce soir on a décidé de se centrer pour l'émission sur plutôt l'aspect sécuritaire de ces JO. Et en fait on parle souvent de l'effet cliquet des JO sur les politiques sécuritaires qui sont mises en place sous prétexte des Jeux et en fait qui sont après imposées sur le temps long et qui vont pas durer que le temps de ces 15 jours des JO. Et en fait ce bon sécuritaire ça fait longtemps qu'il existe. Par exemple on peut citer plusieurs exemples, il y a notamment à Los Angeles en 84 pour l'occasion des JO, en fait il y a l'idée de plus voir que la misère de cette ville soit, enfin que la misère soit virée de cette ville à l'occasion de cette fête. Du coup il y a des sans-abri qui sont forcés à des déplacements deux ans avant le début des JO. Il y a des interdictions de dormir dans la rue, sur les bancs. Il y a un gros boost aussi du budget de la police qui a pu avoir plus d'équipements. Et après, ces équipements, ils ont été réutilisés par la suite pour réprimer des populations, en particulier pour cibler certaines populations à Los Angeles après dans les mouvements sociaux qu'il y a pu avoir par la suite. À Atlanta, en 96, il y a eu la construction d'un centre de détention de 1000 places à l'occasion des JO, justement pour pouvoir enfermer toujours plus en préparation de ces JO. Ou encore à Londres, en 2012, pendant les JO, il y a eu à la fois une utilisation de l'armée pour la sécurité, que ce soit dans les airs, avec des hélicoptères, avec des avions pour surveiller ce qui se passait, et à la fois l'utilisation des militaires pour la sécurisation, pour d'autres aspects de la sécurisation. Et, Et en fait, du coup, en fait, on voit que les JO, ça va avec un contrôle de l'espace public qui est toujours plus fort. C'est à l'occasion des JO, ça met en place ce contrôle, et notamment qui cible certaines populations. Et du coup, c'est notamment un contrôle raciste et envers les populations les plus pauvres. Et en fait, ces politiques sécuritaires, elles vont de pair aussi avec la gentrification des villes, des quartiers populaires, qui va être accélérée à chaque Jeux Olympiques aussi dans les différentes villes qui les accueillent. Parce qu'en fait, les populations qui vont être jugées indésirables, elles vont être déplacées, que ce soit par le harcèlement de la police, les arrestations, l'enfermement, ou alors par l'expulsion, parce que qui vont être déplacées parce que les loyers deviennent trop chers, parce que les gens peuvent plus se loger, et parce qu'ils vont être relégués du coup toujours plus loin avec cette gentrification. Et donc voilà, les JO, c'est l'occasion de virer les plus pauvres au profit de ceux qui ont plus de moyens, et aussi d'enrichir au passage un certain nombre d'entreprises, de promoteurs. Et donc il y a pas mal d'entreprises qui se font de la thune aussi à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Les Jeux, ça crée tout ça, et c'est de ça qu'on va parler ce soir, à la fois de la gentrification et de la sécurisation que vont entraîner ces JO. Mais on voulait quand même dire, pour avoir une petite un peu plus positif, qu'il y a quand même des gens qui luttent contre ces Jeux Olympiques à Paris, qui ont lutté contre les Jeux Olympiques précédents et contre les effets qu'ont eu les Jeux Olympiques. Donc voilà, il y a en France, à Paris, il y a Stackage 2024 qui fait certaines choses sur les Jeux Olympiques. Il y a d'autres personnes qui luttent contre les lois olympiques sécuritaires dont on va parler par la suite, mais on voulait quand même préciser ça avant de continuer.
Et si l'aspect sécuritaire autour des JO, il est aussi important et mis en avant en ce moment, en plus ils en parlent beaucoup. Beaucoup dans les médias, de est-ce que la sécurité va vraiment être à la taille de l'événement, ou est-ce que ça va être le bordel pendant les Jeux Olympiques. C'est parce que c'est aussi beaucoup une question d'image. Non seulement, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que les Jeux Olympiques, du coup, ça va accélérer la gentrification de certains quartiers. Ça va permettre de mettre en place des trucs sécuritaires, mais que c'est pas un hasard, c'est pas juste... pour les JO, ça accélère des processus qui sont déjà là. Avoir déposé la candidature de Paris pour accueillir les JO, c'était pas un hasard, c'est pas sorti de nulle part. Eux, ils le présentent beaucoup comme quoi, comme il y a les JO, il va falloir qu'il y ait de la sécurité, parce que va y avoir les caméras du monde entier qui vont être braquées sur Paris et qu'il faut donner une bonne image. Mais ils savaient, ça allait avec, et c'est aussi déposer une candidature parce que ça les arrange ce que ça va provoquer d'accueillir les JO à Paris. Là, il y a l'enjeu aussi post-attentat de 2015, du coup, de montrer que Paris est une fête. C'est beaucoup ce qu'on a entendu en 2015, mais de montrer que Paris continue à accueillir des grands événements, et que la sécurité est là, et que du coup, il n'y a pas de souci pour qu'il y ait des touristes qui viennent ou des investisseurs étrangers qui investissent dans la ville. L'image qui souhaite être donnée de Paris à travers ces jeux, ils ont beaucoup misé sur des jeux propres, l'écologie, développement durable, que ça allait être des jeux à faible émission de CO2, que ça allait aussi permettre le développement de tout un tas de quartiers qui moins favorisés, donc de la Seine-Saint-Denis, quoi. Quand ils disent ça, ils parlent de Saint-Denis notamment. Et ça, c'est l'image qu'ils cherchent à montrer. Mais c'est aussi surtout un moyen de placer la métropole de Paris comme une métropole importante à l'échelle mondiale. Et toutes ces logiques de grossir la ville en dehors de Paris intramuros, mais de développer la ville en banlieue, il n'y a pas que les JO qui apportent ça. C'est déjà le projet du Grand Paris, avec la construction de nombreuses lignes de métro en banlieue, où on voit bien que ces lignes de métro, elles s'accompagnent aussi de construction de nouveaux quartiers à proximité des bouches de métro, avec des hausses du foncier, du fait que ça soit mieux desservi qu'avant en transport. Et du coup, les JO, c'est un des éléments qui va accélérer ces processus-là, notamment parce que ça va permettre du coup d'avoir des investissements financiers importants sur un laps de temps assez court, là où d'habitude ça mettrait beaucoup plus de temps, là ça va être considérablement accéléré par les jeux, par la perspective des jeux, et aussi à travers la loi, parce que il y a des dispositions qui vont être prises dans la loi spécialement pour les JO et qui vont permettre que ces processus-là d'aménagement en banlieue et de sécurisation, ça permet d'aller plus loin que ce qui serait allé sans les JO, enfin plus loin, plus vite, le fait qu'il y ait des dispositions dans des lois spécifiques.
Et ouais, du coup, c'est déjà, il y a une loi olympique, qui, voilà, c'est son nom, qui a été voté en mars 2018 et donc qui permet, des choses en termes d'urbanisme. Mais avant, je voulais un petit peu revenir sur le fait qu'elle permettait aussi plein de choses pour que le CIO, donc le Comité International Olympique, puisse se faire pas mal de thunes pendant ce moment-là. Et cette loi olympique, par exemple, elle propose, elle permet que le droit suisse soit celui qui s'applique pour les conflits et les litiges sportifs ou administratifs qui vont avoir lieu pendant la durée des Jeux Olympiques. Cette loi olympique, elle rend aussi responsable la ville hôte, le Comité national olympique et le Comité d'organisation des Jeux Olympiques des problèmes et des manquements qu'il y aurait. Et du coup, c'est aussi une des choses qui fait que ils ont grave la pression au niveau du gouvernement pour que tout se passe bien, quoi, parce qu'il y a des gros enjeux quand même financiers. C'est une des raisons, disons. Et les Jeux Olympiques, c'est la propriété du CIO, donc il y a une partie des recettes qui vont lui revenir. Mais c'est aussi le CIO qui va accorder ou non des accréditations aux personnes qui viendront aux Jeux Olympiques. Donc, par exemple, pour tout ce qui est participants, journalistes, etc., quoi, le CIO a un droit de regard sur qui vient aux Jeux Olympiques. Et donc, voilà, pour revenir à ce qu'on disait auparavant, cette loi olympique, elle permet aussi des choses en termes urbanistiques. Alors, par exemple, pour les publicités, tout ce qui était les frais d'emplacement publicitaire, c'est payant, là, ce sera gratuit pour la plupart des sponsors des Jeux Olympiques. Et voilà, si on revient à ce qui est vraiment d'urbanisme et ce qui fabrique un peu la gentrification, maintenant, pour les projets olympiques, c'est des procédures allégées et il n'y a plus besoin de passer par une enquête publique, ce qui est normalement le cas pour la plupart des projets, même si c'est souvent aussi une formalité. On peut le voir par exemple pour les constructions de nouvelles prisons, par exemple, on en a déjà parlé. En tout cas, cette loi olympique permet aussi et demande la participation des organismes HLM pour la construction de bâtiments olympiques. Donc ça permet, ça a été demandé pour les Bouches-du-Rhône et pour la Seine-Saint-Denis, et ça s'applique pour le village des médias, donc là où il y aura tous les journalistes, mais aussi pour le village olympique, là où il y aura tous les athlètes. Donc c'est ces organismes HLM qui vont devoir acquérir les bâtiments, qui devront participer ensuite à leur transformation après le premier usage. Parce qu'en fait, en l'état, ils ne seront pas, après leur usage olympique, disons, ils ne seront pas vraiment...
habitables tel quel, quoi.
Ouais, voilà. Donc ça, c'était un peu, un petit aperçu de cette loi olympique et ce qu'elle permet, ce qu'elle va permettre en termes de construction et de changement dans la ville. Et du coup, ça, vous allez en parler un peu plus dans la deuxième partie.
Oui, et avant de continuer à parler un peu plus en profondeur de ça, on va écouter une musique. On va écouter Sans Calibre de Cazo.
profitant de chaque instant, parce qu'on ne sait pas de quoi faire demain. Préservant nos relations, on ne sait jamais.
Yves Zogbo Junior.
L'argent c'est bon, l'argent c'est doux, mais à quoi ça sert?
Si t'as pas la santé.
L'argent c'est bon, l'argent c'est doux, mais à quoi ça sert?
Si t'as pas d'amis.
Attrape la main de ton voisin et fais-lui un petit câlin. Attrape la main de ta voisine et fais-lui un petit câlin. La vie est belle,
c'est les moments.
Faut profiter,
c'est les moments.
La vie est cool,
c'est les moments.
Il faut bien s'aimer,
c'est les moments.
Lève les mains, lève les mains, lève les mains.
Voici la nouvelle danse. Prends ton temps, mon cher.
Grimata.
Oh,
prends ton temps.
Doucez-moi.
Prends ton temps.
Doucez-moi.
Prends ton temps.
Mais non, non, ce monsieur le ministre.
Yakini Yeta.
Prends ton temps.
Je dis prends ton temps.
Prends ton temps.
Kamalambe.
Prends ton temps.
Prends ton temps.
Prends ton temps.
Tu me vois, je te vois. Je te vois, tu me vois.
Sougali,
tu me vois, je te vois.
Bunda,
je te vois, tu me vois.
Maxime de Bévi.
Allegre, gagne, 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 gagne. Roboto, Roboto,
Boy. Ujeyeo.
Prends ton temps.
Un vieux père.
Prends ton temps.
Je dis prends ton temps.
Prends ton temps.
Avance seulement.
Prends ton temps.
C'est des vagues et bon.
Prends ton temps.
Maduro, Zabayo.
Prends ton temps.
Conituré.
Prends ton temps.
Romeo, Quaco.
Dit combo ego.
Travailler, prenez de la peine. Travailler,
oui, alors on est désolé, on sait pas trop ce que c'est comme chanson, mais c'était absolument pas Sans Calibre de Cazzo. Voilà, on avait un petit problème technique apparemment. Mais du coup, on va continuer sans écouter la fin de la chanson. Et on va continuer du coup, voilà, sur la gentrification et du coup à la fois c'est quoi qu'est-ce qui du coup va être c'est quoi les chantiers qui vont être construits pour les JO et comment en fait tous ces chantiers et tout ce qui va être construit pour les JO va participer à gentrifier notamment la Seine-Saint-Denis et ce qui va et tous les processus qui vont en découler. Et du coup je vais commencer à parler de des projets de construction pour les JO de 2024. Donc en fait dans Paris les sites qui accueillent les JO en fait dans la très grande majorité soit ils existent déjà, soit ils vont être rénovés ou alors ils vont être temporaires. Et du coup à part le seul site qui va être construit dans Paris, mais en fait enfin ça c'est à cheval avec la Seine-Saint-Denis, c'est l'Arena à Porte de la Chapelle. Et donc, l'Arena à Porte de la Chapelle, ça va être une grande salle pour les compétitions, compétitions sportives avec deux gymnases. Et sur le parvis, il va y avoir notamment des commerces. Et donc, voilà, c'est un grand stade et qui, voilà, on va voir après, ça s'inscrit aussi dans la volonté de gentrifier. De gentrifier le quartier de Porte de la Chapelle et de transformer ce quartier. Et après, donc, les autres constructions qui vont être faites, ça va être en Seine-Saint-Denis. Donc, il va y avoir notamment le village des athlètes qui va être entre Saint-Denis, l'île Saint-Denis et Saint-Ouen et qui sera censé accueillir 14 500 athlètes et leurs accompagnateurs pendant les JO et qui après... comme on le verra après, vont être transformés en logements, en écoquartiers. Il va y avoir aussi le village des médias qui est prévu dans le parc départemental de Georges Valbon sur la zone de l'aire des Vents à Duny. Et en fait, qui va accueillir jusqu'à 2000 journalistes et des techniciens pendant les JO. Donc en fait, en 2000, il y a eu une... petite lutte, il y a eu une lutte locale qui a été menée en 2021 contre cette construction. Donc il y avait deux associations, donc c'était l'antenne locale du Mouvement national de lutte pour l'environnement et le collectif pour le Triangle de Gonesse qui avait déposé un recours en 2021 contre ce projet devant la Cour administrative d'appel de Paris en dénonçant une artificialisation définitive de ce parc et le fait que ça portait atteinte à des espèces protégées cette construction. Mais voilà, il y a eu les travaux ont été suspendus pendant 3 mois. Puis le recours a été rejeté et les travaux ont continué.
Ensuite, va y avoir la piscine olympique qui va être de Saint-Denis, qui va être construite. Donc, ça va être un centre aquatique avec notamment une passerelle qui va la relier au Stade de France. Et donc, ça va être un bassin olympique de 50 mètres plus un bassin spécial plongeon et une piscine d'entraînement qui vont être aussi censées être transformées par la suite. Et va y avoir une piscine d'entraînement à Aubervilliers. Donc de base, c'était une piscine qui allait avec un solarium et des espaces d'activité. Et en fait, ces espaces, ce solarium, il était sur les jardins ouvriers d'Aubervilliers. Et en fait, ces espaces étaient aussi pour rentabiliser la piscine une fois qu'elle serait les JO terminés pour pouvoir pour l'entreprise. Enfin, sur comme ça va être un partenariat public-privé, c'est fois pour que ça soit le plus rentable possible. Et donc, il y a eu toute une lutte au niveau des jardins d'Aubervilliers. Donc voilà, la lutte de la JAD, donc des jardins à défendre, contre la destruction de ces 4000 mètres carrés de jardins ouvriers, donc, qui a eu lieu en 2021. Donc il y a eu une occupation pendant 5 mois des jardins et qui a fini par une expulsion le 2 septembre 2021. Mais quelques mois plus tard, la Cour administrative d'appel de Paris a ordonné la suspension des annexes qui n'étaient pas en lien avec le bassin olympique et du coup notamment le solarium qui était sur ces jardins et qui finalement du coup c'est un projet qui a le projet du solarium a été abandonné et la mairie est censée remettre en état ces jardins. Mais il y a toujours quand même il y a quand même une partie des jardins qui risque d'être détruite. C'est une autre partie avec cette fois le projet de la gare du Grand Paris Express et d'un quartier de bureaux, d'hôtels, d'écoquartiers et qui du coup participe aussi à la gentrification du fort d'Aubervilliers et qui a amené aussi à des expulsions, qui va amener aussi à réduire le taux de logement social dans la ville. Donc voilà, c'est aussi une lutte maintenant qui continue sur cette autre partie des jardins d'Aubervilliers. Et Alix, toi, tu vas nous parler justement plus de la communication autour de ces chantiers et autour de la transformation de ces bâtiments, de comment ils vont être transformés et qu'est-ce que ça va dire en fait en termes de gentrification et d'expulsion de certaines personnes, quoi.
Ouais, donc là, ce qui a été présenté, c'est un peu les aménagements, les structures qui sont vraiment les structures sportives, enfin, soit les structures sportives type la piscine, soit le village olympique et le village des médias qui sont pour accueillir directement les athlètes et les journalistes pendant les Jeux. Mais la communication qui est faite autour du coup de ces projets urbains, c'est beaucoup sur ce qu'il va y avoir aussi autour, soit que ça va être ce que tu as déjà un petit peu dit, transformé après en logement. Donc parce que par exemple dans le village olympique, il y a une certaine, va y avoir beaucoup de bureaux aussi. Et du coup, ces bureaux-là, le bâtiment, il sera refait après pour être transformé en logement à ce moment-là. Soit c'est des projets où va y avoir la construction de nouveaux quartiers collés à ces infrastructures. Et où du coup, la communication publique qui est faite et les affichages, quand on se promène vers les endroits où ces infrastructures vont être construites, ça parle beaucoup de tant de logements vont être construits. Pour montrer que c'est bien pour les territoires d'accueillir les Jeux olympiques et que ça serait une chance pour la population, que c'est ce qui va permettre de construire davantage de logements à des endroits où, en région parisienne, on sait que le logement, c'est un gros sujet et une grosse problématique pour beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se loger dans de bonnes conditions. Il y a eu relativement peu d'expropriations qui ont été faites. Il y en a sûrement eu quand même quelques-unes, mais ils ont réussi à trouver quand même des sites qui soit été sur des espaces naturels. Donc là, ils vont plus communiquer, par exemple, pour le parc Georges Valbon. Ils vont dire qu'il y a tant d'hectares qui ont été détruits pour construire le village des médias, mais que de l'autre côté du parc, ils agrandissent le parc de davantage d'hectares que ce qui a été détruit. Et du coup, que dans la balance, ça ne serait pas si grave qu'il y ait une partie du parc qui ait été rasée et bétonnée. Ou sinon, ils vont choisir plus des friches industrielles. Et du coup, par rapport à d'autres villes qui ont déjà accueilli les Jeux Olympiques, où il y avait eu beaucoup d'expropriations et où du coup, il y avait aussi eu des mobilisations locales, parce que les gens, quand ils se font exproprier, c'est plus souvent qu'ils contestent du coup le projet. Là, il n'y a pas eu tant d'expropriation que ça. Pour autant, on peut se demander tous ces nouveaux logements qu'ils affichent, que ça soit par la transformation après les JO des sites des villages olympiques ou du village des médias, ou que ce soit les éco-quartiers qui vont être construits à proximité, qui va habiter ces logements-là ? Parce que y a déjà une hausse des loyers qui est déjà en cours et qui s'amplifie et qui va probablement s'amplifier encore plus à la suite des Jeux Olympiques. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est beaucoup une question d'image qui veut être donnée aussi de ces endroits où va y avoir les structures olympiques construites. Aujourd'hui, y a des gens, venir habiter à Saint-Denis, ça peut leur faire peur parce qu'ils se disent que c'est dangereux, qu'ils ont peur de se faire agresser ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Là, on va leur construire des résidences toutes belles, avec des caméras. Va y avoir des quartiers entiers qui sont refaits. Du coup, c'est pas juste un immeuble dans une ville où ils ont l'impression d'être qu'au milieu de pauvres, mais là ils voient que c'est des gros quartiers. Du coup, ça donne davantage envie à ces gens-là qui sont ciblés par ces constructions de venir s'installer à Saint-Denis. Et du coup, ça participe quand même à changer qui habite dans la ville, même si c'est pas des expulsions forcément directes. Le fait que les nouvelles constructions s'adressent à des gens qui ne sont pas les habitants actuels, ça participe, mais à des gens avec un niveau économique plus élevé, ça participe aussi à changer la population, à la fois en jouant du coup sur des aménagements et sur l'aspect sécuritaire, qui sont un peu les deux trucs de la gentrification, quoi. De donner une image plus sûre, je sais pas, où c'est chouette d'habiter là, quoi. des logements plus spacieux. Ces deux trucs, à la fois des meilleurs logements et à la fois changer l'image de la ville, qui fait que ça attire de nouvelles populations. Et ça va continuer après les JO. Donc c'est bien aussi ce qu'on martèle un peu dans cette émission, mais les JO, ça ne s'arrête pas au moment des Jeux. Et ces changements-là, les JO, ça accélère ce processus-là, mais il commence avant les Jeux et il va continuer après les Jeux.
Oui, et il y a un peu une communication sur aussi avoir plus d'installations sportives en Seine-Saint-Denis, comme la piscine, mais qu'en fait, on ne sait pas à quel point ça va être des installations qui vont être accessibles aux habitants, habitantes des lieux, suivant le prix. Donc, il y a ça. Il y a aussi un mur d'escalade qui est construit aussi dans les projets, un mur d'escalade au Bourget. Et en fait, comme ça va être après notamment le privé qui va en partie gérer ça, on ne sait pas le prix et à quel point ça va permettre... des installations sportives pour les habitants, quoi. Moi, je voulais continuer aussi sur des projets qui sont pas tant des projets en soi des JO, mais en fait, les JO, ça permet aussi, plus généralement, d'accélérer d'autres grands projets urbains dans les villes et qui répondent pas non plus à en fait ce dont ont envie et besoin les habitants des lieux dans lesquels c'est construit. Et donc par exemple Et donc, par exemple, je voulais parler un peu du chantier de la tour Pleyel. Donc, en fait, la tour Pleyel, ça va être la construction d'un hôtel de luxe. Il va y avoir dans cette tour, notamment, la construction d'un hôtel de luxe avec une immense terrasse et une immense piscine panoramique. Voilà, ça va être un hôtel 4 étoiles. Il va y avoir aussi, autour de cette tour et autour de la tour, un centre de conférences. Il va y avoir des commerces, des restaurants et énormément de bureaux qui vont être répartis dans de nouveaux bâtiments qui vont être construits au pied de cette tour. Et en fait, la communication, notamment autour de cet hôtel de luxe, c'est que la tour Pleyel aurait une situation géographique idéale entre Paris et l'aéroport de Roissy pour à la fois, en semaine, avoir une clientèle d'affaires et des touristes le week-end, parce que y a notamment, ça va avec le projet du Grand Paris, ce que tu disais tout à l'heure aussi, que les JO, c'est aussi ça s'inscrit dans un cadre plus global de la métropolisation, d'autres projets pour faire de Paris une capitale encore plus attractive économiquement. Et donc, notamment, on va y avoir le prolongement de la ligne 14 qui va aller jusqu'à la Pleyel, la gare Saint-Denis-Pleyel, et donc la ligne 14 qui, de l'autre côté, va être aussi agrandie jusqu'à Orly pour relier directement l'aéroport jusqu'à le centre de Paris, mais aussi Pleyel. Et donc voilà, ça va avec cette grande gare qui va être construite à Pleyel, où va y avoir la ligne 14, mais aussi d'autres lignes, la 16, la 17, la 15, qui sont en construction. Et donc voilà, ça c'est les JO, c'est aussi une transformation des quartiers encore plus rapide, et ça permet aussi de faire des projets qui sont coûteux économiquement et qui seraient peut-être pas faits aussi vite avec un délai aussi resserré, parce que là l'objectif de la tour Pleyel de base c'était que ça soit fini aussi dans un premier temps, c'était que ça soit fini en 2023 pour la coupe du monde de rugby. Et maintenant, c'est plutôt repoussé à 2024, mais l'idée, c'est que c'est en lien avec les JO pour pouvoir accueillir aussi les touristes, et que c'est un moment économique. Les entreprises cherchent aussi à profiter des JO. Et pareil pour le projet de l'échangeur qui va à côté de cette tour Pleyel, où c'était aussi un projet antérieur qui existait, mais qui a été boosté par les JO, et le fait que ça serait un moyen de rentabiliser encore plus cet échangeur, en prétextant aussi là pour la construction la sécurité et l'efficacité du déplacement des athlètes et de certaines délégations entre le village olympique et le Stade de France et le village des médias. Et alors que, en fait, ça va, cet échangeur, ça va aussi rendre la vie des habitants encore plus invivable, avec un doublement du trafic, avec plus de pollution sonore atmosphérique qui va avec toutes les changements que vont connaître aussi ce quartier. Du coup, comme on disait, la hausse des loyers qui va aussi avoir lieu, et le changement et la volonté de changer qui habite les alentours de la tour Pleyel.
D'ailleurs, il y a eu une lutte à un moment contre l'échangeur. Parce qu'il y a eu une école primaire à proximité de l'échangeur, il y a eu une lutte de parents contre ce projet-là, en disant que ça allait, que leurs enfants allaient à l'école dans un environnement, avec un air trop pollué, les problèmes d'asthme, tout ça. Mais visiblement, ça n'a pas changé, ça leur a pas fait abandonner le projet. Et oui, complètement. Enfin, ce que tu disais, la tour Pleyel, ça fait des années et des années qu'elle est abandonnée. Ça fait des années et des années qu'il y a régulièrement... qu'ils se disaient qu'ils allaient commencer les travaux, que ça allait être changé en quelque chose d'autre. Et là, c'est clair que les Jeux Olympiques, ça donne une échéance. Le fait que ça soit proche à la fois du Stade de France, de la piscine, du village olympique. Et on se doute bien qu'au pied d'un hôtel 4 étoiles, du coup, les logements qui vont être construits, ça, c'est pas la même chose que dire que ces logements, si ces logements avaient été construits au milieu d'une friche, quoi. Et non seulement il y a ces changements de population, mais il y a aussi quand même des expulsions directes liées au projet urbain des JO, notamment le foyer ADEF à Saint-Ouen. Du coup, qui est un foyer de travailleurs migrants où les gens ont été sortis du foyer en mars 2021. Ce foyer, il se trouve sur le périmètre du nouveau village olympique. Du coup, ils ont pour projet de le démolir et il va y avoir des bureaux à l'emplacement du foyer au cœur du village olympique pendant la durée des Jeux et qu'après, ça soit transformé en logement par la suite. Du coup, c'était environ 400 personnes, il me semble, qui habitaient dans le foyer ADEF et qui ont été, en mars 2021, qui ont déménagé du coup, dans des préfabriqués. Avant, du coup, doit y avoir la construction d'une nouvelle résidence. Après, il faut quand même... ça, c'est aussi... Voilà, ils ont choisi ce site-là parce que ça ne les dérangeait pas du tout de virer ce foyer. Et c'est aussi toute une logique qu'ils ont depuis plus longtemps de virer les foyers en règle générale en Île-de-France, d'essayer de construire en prétextant du coup que les foyers, même s'il y en a qui sont vraiment dans des états hyper insalubres, vieux, où le bâtiment il s'est dégradé, mais en disant « Ah, comme les bâtiments sont trop dégradés, on va construire des nouvelles résidences pour le bien-être des gens, pour pas qu'ils vivent dans ces conditions-là ». Et à chaque fois, c'est aussi, y a aussi un gros enjeu de qui va être logé. Et là, au foyer ADEF, c'était ça aussi. Parce que eux, ce qu'ils disent, c'est que les gens ont déménagé dans des préfabriqués, ce qui déjà... c'est des préfabriqués, quoi. Déjà, c'est hyper critiquable, même pour les personnes qui ont pu avoir une place. Mais il y avait aussi tout un enjeu autour de qui va être logé. Et notamment une centaine de sans-papiers qui ont été laissés sur le carreau sans proposition de relogement parce qu'officiellement, ils n'étaient pas censés habiter le foyer. Et des personnes aussi qui habitaient... qui habitaient de façon officielle, mais qui avaient des dettes d'impayés, et du coup, où ils ont profité pour les virer en leur proposant pas, de les expulser juste avant, pour impayés de loyer, juste avant, du coup, le déménagement du foyer. Enfin, juste avant mars 2021, du coup, ils ont dit aux gens de partir. Il y avait eu une tentative des personnes qui habitaient le foyer de s'organiser à un moment, d'essayer de faire en sorte que les gens qui avaient des impayés ne soient pas laissés sans solution, qu'on leur propose quand même des échelonnements de dettes ou des trucs comme ça pour pas qu'ils se retrouvent sans rien. Et voilà, le fait de vouloir virer ce foyer... C'est oui, il se trouve sur le périmètre des Jeux Olympiques, mais du coup, c'est quelque chose qui les dérange pas trop. Et la résidentialisation des foyers, c'est aussi faire disparaître plein d'espaces de vie collective qui existaient dans les anciens foyers en faisant plutôt des petits studios, mais qui font que les gens sont aussi plus isolés et où ils se disent qu'ils auront un meilleur contrôle sur qui habite le foyer et qui n'y habite pas. Et notamment d'essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de sans-papiers qui vivent dans les foyers. Donc ça, c'est une expulsion directe liée à un projet des Jeux Olympiques. Et l'expulsion d'Unibéton aussi, dont on parlait dans les actus en début d'émission, où là aussi, le projet d'écoquartier, il n'est pas pour tout de suite, mais c'est le fait que ça soit proche d'un site des Jeux Olympiques, même si c'est pas dit clairement que eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a eu une procédure d'expulsion, elle est arrivée au bout, et du coup, c'est normal, c'est un squat, c'est normal que ça soit dégagé. On sait aussi que ça... a fait à un moment accélérer les choses parce que là, d'un coup, en ce moment, il y a un gros regard sur ce qui se passe à ces endroits-là.
Du coup, avant de continuer sur la partie plus contrôle, contrôle et lois sécuritaires des JO, on va écouter une musique en espérant que ce soit La Rue de Naïra.
Oui, j'ai roulé sans mi-père, ma sœur cachère. Pas de tolère pour les soirs de galère. Ah oui, tu veux la dernière paire. Stylée, sur moi paraît qu'elle fait vulgaire. T'aimes les épices mais pas les couleurs. Mais allez tous vous faire. Toujours été dans le rouge, non mais non mais non. Je vais pas fermer ma bouche, non mais non mais non. Basket sur tapis rouge, non mais non mais non. Moi je veux que ça bouge, non.
Ce soir, on parle des sur Carapatage, on parle des JO. Et là, on va parler notamment de tout ce qui est loi sécuritaire et contrôle de l'espace public qui est renforcé en vue des JO. Et donc, Alix, tu vas nous parler notamment de la pacification de l'espace public en vue des JO, avec notamment la répression plus dure de la vente à la sauvette et du deal.
Oui, du coup, bah, ils se rendent compte de que bah, va y avoir les caméras du monde entier sur Paris, va y avoir des gens importants qui vont être là, et du coup, ce qu'ils veulent, c'est aussi pacifier l'espace public avant que les Jeux Olympiques aient lieu, pour bah, que au moment où les Jeux se déroulent, ça soit plus facile, qu'il n'y ait pas des gens en train de traîner, ou des choses qui, selon eux, donneraient une mauvaise image. Et donc, il y a un plan zéro délinquance qui est à l'œuvre depuis novembre 2022 et qui va aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Et Darmanin lui-même a dit qu'il va y avoir un an et demi de harcèlement et de nettoyage pour que l'ensemble des spectateurs soient en sécurité. Du coup, on voit bien que c'est utiliser le fait qu'il faut donner une bonne image pour les Jeux, qu'il faut que tout soit en sécurité d'ici là, pour bah, dès aujourd'hui commencer à faire son sale boulot et à chasser les gens qu'il a pas envie de voir, qu'ils n'ont pas envie de voir à proximité des structures olympiques. Et donc, l'objectif de ce plan, c'est de lutter contre la délinquance générale, les trafics, les commerces illicites, le non-respect des mesures d'hygiène et sanitaire, ainsi que l'immigration illégale. Du coup, les deux cibles clairement de ce truc-là, c'est le trafic du stup et la vente à la sauvette. parce que bah, c'est les deux choses qui sont aussi un peu visibles. Ils n'ont pas envie qu'on voit qu'il y ait plein de vendeurs à Saint-Denis ou à Paris. Du coup, ça a déjà commencé. Il y a une augmentation de 50% à 88% du coup, des gardes à vue quotidiennes pour stupéfiants dans le 93. À Paris, la vente à la sauvette en 2022, c'est la troisième infraction la plus verbalisée, avec 9237 amendes. Essayer de lutter contre le deal et contre la vente à la sauvette, c'est des trucs qui sont assez longs. La vente à la sauvette à Saint-Denis, il y avait un gros point de vente à la sauvette qui était devant sur le parvis de la gare du RER de Saint-Denis. Et ça a commencé il y a déjà plusieurs années d'essayer de faire en sorte que ça ait plus lieu. D'abord par un harcèlement policier où il y avait les flics qui venaient vraiment tout le temps, qui déboulaient sur le parvis en voiture, en roulant super vite. Des fois ils arrêtaient, des fois ils arrêtaient même pas. C'était vraiment genre je fonce en voiture et je freine d'un coup. C'était vraiment faire peur aux gens pour qu'ils s'en aillent. Il y a eu du coup tout ce harcèlement policier et après il y a eu des travaux. Donc on voit bien aussi là encore une fois le lien entre aménagement de l'espace, aménagement urbain et sécurisation de l'espace. Parce que du coup il y a eu ces travaux à la gare RER de Saint-Denis qui sont pas du coup qui sont quand même liés au JO. Clairement, la gare, elle est en travaux aujourd'hui parce que il faut l'agrandir, parce qu'il y a un flux de personnes important qui est attendu pendant les Jeux. Du coup, ils voulaient faire une plus grande sortie côté Île-Saint-Denis, parce que du coup, la gare RER, elle est proche de l'Île-Saint-Denis. Donc, elle dessert à la fois Saint-Denis, à la fois l'Île-Saint-Denis. Il y avait déjà une sortie côté Île-Saint-Denis qui existait, mais du coup, il fallait l'agrandir. Donc là, ils en ont construit une grosse. Et ils en profitent aussi pour faire des travaux sur le parvis, donc là où il y avait tout le monde qui restait pour vendre des trucs. Et c'est toujours en travaux aujourd'hui, ça fait des mois et des mois que ça dure. Des fois, les travaux, ça va très vite. Là, on voit qu'ils prennent quand même bien leur temps pour ce parvis. Et on peut penser que, sans être trop parano, que c'est quand même pas... C'est pas un hasard, c'est aussi que ça les arrange que ce parvis il reste en travaux, parce que pendant qu'il est en travaux, c'est pas possible de zoner devant, de vendre des trucs devant. Et du coup, ça force à casser les habitudes, à ce que les gens qui avaient l'habitude de venir ici, de passer du temps devant la gare, quand ça fait des mois et des mois, les habitudes, petit à petit, elles se perdent. Et c'est un peu là-dessus qu'ils parient pour tenter d'éliminer la vente à la sauvette du quartier. Ça permet d'éviter que ça se réinstalle. Pour le deal, la semaine dernière, il y a eu deux grosses opérations. Une opération dans le quartier du Framboisin, donc qui est une cité à Saint-Denis, qui est vraiment la cité à proximité du Stade de France. Et une opération à Mairie de Saint-Ouen, donc à Saint-Ouen aussi, qui est proche du village olympique. Et donc là aussi, c'est faire des grosses opérations à proximité de là où va y avoir les Jeux Olympiques pour essayer dès aujourd'hui de faire en sorte qu'il n'y ait plus de deal. D'ailleurs, il y a Laurent Nunez qui a, dans Le Parisien la semaine dernière, dit que l'objectif, c'était de renforcer progressivement la présence policière pour saturer l'espace public de policiers d'ici les Jeux. Donc, au moins, c'est affiché clairement que c'est ce qui nous attend pendant un an et demi. Donc, ça fait un petit peu peur quand même. Mais voilà, en tout cas, ce qu'ils essayent de faire pour l'instant, c'est au moins tout ce qui est visible et tout ce qui pourrait faire tâche pendant les Jeux, d'essayer de le virer dès aujourd'hui pour espérer que pendant la durée des jeux, ça soit plus facile à contrôler si déjà c'est aller plus loin ou c'est aller ailleurs, quoi.
Et Pile, tu vas continuer en nous parlant un peu des lois olympiques qui concernent cette fois-ci plus la sécurité, et tu vas nous parler de la vidéosurveillance aussi.
Ouais, de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques. C'est la deuxième loi olympique après celle de 2018. Cette loi-là, je me disais qu'on n'en avait pas trop parlé, mais du coup, maintenant, on peut voir écrit Jeux olympiques et paralympiques, et du coup, les Jeux paralympiques auront lieu en septembre. Alors, ça, c'est aussi... ça change rien, en fait. Je pense qu'ils aient rajouté des Jeux paralympiques à ce que les Jeux olympiques, par exemple, et le sport de haut niveau produisent comme normes sur les corps, etc., quoi. Mais en tout cas, je pense que c'est bien quand même de pas oublier qu'il y a ces deux Jeux olympiques et que il y a pas mal de... Enfin, aussi de critiques autour de ce que ça produit comme normes, les Jeux paralympiques, mais ce serait le sujet d'une autre émission. Mais du coup, cette loi, contrairement à la première d'ailleurs, s'appelle loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques. Elle ne va pas concerner que le temps des Jeux olympiques, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui vont perdurer après les Jeux olympiques. C'est une loi qui est essentiellement autour de mesures sécuritaires, mais qui est aussi... il y en a quelques autres autour des horaires de commerce, des règles publicitaires, encore une fois, aussi de l'ouverture de tests génétiques pour les mesures pour les contrôles antidopage, et ce pas seulement pour les Jeux olympiques. Cette loi olympique, elle va renforcer les infractions, les possibles sanctions autour d'intrusions dans les enceintes sportives. Par exemple, le fait de pénétrer sur l'air ou sur un terrain de compétition, le fait de le faire en faisant part de sa conviction politique, et le fait de s'introduire dans des enceintes sportives de manière illégale, c'est-à-dire sans billet, va être sanctionné de manière... les sanctions sont doublées, donc on passe de 1 an et demi à 3 ans, et l'amende aussi va doubler. Le fait d'introduire de l'alcool, ou d'aller dans le stade en état d'ivresse, ou d'inciter à la haine, à la violence, de jeter des projectiles dans l'air olympique, mais aussi dans tout stade, quoi. Ça va être aussi puni, et on sait que qu'ils vont essayer de systématiser les interdictions de stade, des interdictions judiciaires. Et du coup, on sait que un peu les mesures qui peuvent exister comme la répression un peu des supporters, ce sont souvent des espèces un peu d'expérimentation sur d'autres aires de la ville, quoi. Enfin, de la ville ou de... Par exemple. Et du coup, ça, c'est une des mesures sécuritaires de cette loi. Il y en a d'autres. La loi olympique permet l'ouverture... Enfin, la possibilité d'utiliser des scanners corporels à l'entrée des stades, comme dans les aéroports, quoi. Et en fait, a priori, c'est pas sûr que ça va être utilisé, parce que c'est quelque chose qui est hyper coûteux, mais en tout cas, maintenant, c'est une possibilité, quoi. Un autre aspect de la loi, c'est l'extension du champ du ciblage, c'est-à-dire des enquêtes administratives sur les participants et les accrédités qui iront sur les sites ou sur les fan zones, mais aussi enquêtes administratives pour les intérimaires ou même ceux de la RATP qui travailleront pendant les Jeux Olympiques. Donc voilà, ça, c'est un autre des aspects. Et l'aspect sur lequel je voulais un peu plus insister, et qui aussi a été peut-être plus visibilisé, pour lequel il y a eu un peu une petite lutte, disons, sur l'aspect sur la vidéosurveillance automatisée. Donc ils avaient annoncé qu'ils utiliseraient ou qu'ils voudraient utiliser la reconnaissance faciale pendant les Jeux Olympiques. ça faisait un peu quand même un peu mauvais genre, même si ça a déjà été utilisé en fait pendant plusieurs autres Jeux Olympiques dans d'autres pays. Et du coup, ils ont dit ok, mais on fera passer quand même la vidéosurveillance automatisée. La vidéosurveillance automatisée, en fait, c'est ça permet, c'est un logiciel qui permet la détection de comportements grâce à une surveillance avec un algorithme. Et du coup, en fait, ça se base pas sur les visages ou sur les couleurs, etc., mais essentiellement sur voilà, des comportements, comme je disais. Mais ça va être, par exemple, le fait de rester longtemps à même endroit, le fait de se regrouper à plusieurs, le fait de courir, par exemple. Et du coup, bah, on imagine bien que ça va s'adresser aux personnes qui zonent dans la rue, aux personnes qui vont mendier. Et du coup, bah, ça va, en fait, c'est pas de la reconnaissance faciale, mais c'est une extension du contrôle avec, par le biais des caméras de vidéosurveillance. Alors, du coup, qui va tout à fait avec bah, tout ce qui a été évoqué auparavant, de nettoyage de l'espace public, de rendre un peu, genre, sécurisé, et qui rassurerait les populations qui vont, enfin, les gens qui vont aller dans ces nouveaux quartiers, quoi. Bon, alors, a priori, donc, cette vidéosurveillance automatisée, qui est déjà, en fait, utilisée par expérimentation dans d'autres villes, enfin, dans certaines villes, aussi par des entreprises comme la SNCF, par exemple. Excusez-moi. Et aussi, eh ben, là, elle va être utilisée à partir de quand sera promulguée la loi. Alors, pour l'instant, elle est pas. Il y a eu un recours qui a été fait par les députés au Conseil constitutionnel.
Et on va faire une petite pause et je vais parler moi un peu de.
En fait, je suis capable de reprendre, mais en fait, j'ai failli. Voilà, je ne pouvais plus vous parler. Je suis désolée. Merci Kate d'avoir pris le relais. J'espère que ça ne va pas se reproduire, mais voilà. Du coup, je ne sais plus. Ah oui, donc voilà, la loi, elle n'est toujours pas promulguée. Donc, elle est, voilà, il y a un recours au Conseil constitutionnel. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera actée. Et peut-être d'ailleurs, ils vont tout supprimer. Bon, ouais, bon d'accord. Non, en fait. OK. Mais en tout cas, pour l'instant, elle n'est pas encore actée. Mais l'idée, c'est que cette expérimentation durera jusqu'à mars 2025. Donc, c'est-à-dire bah, plusieurs mois après les Jeux Olympiques. Et qu'elle commencera dès que la loi entrera en vigueur. Donc, ça pourra être utilisé, cette vidéosurveillance automatisée, pour la Coupe du Monde, par exemple, de rugby en 2023, mais aussi pour tout autre événement de grande ampleur, sportif, culturel, festif, etc. Et les images qui seront enregistrées à ces occasions pourront être conservées pendant un an. En fait, l'utilisation et la conservation de ces images, c'est aussi parce que le logiciel, il s'améliore. Plus il voit d'images, plus il s'améliore. Et du coup, l'idée, c'est de l'améliorer par la même occasion. Et du coup, en fait, on peut imaginer, comme plein d'expérimentations, que ça a vocation à perdurer et que toutes les villes qui vont acquérir bah, l'utilisation de ce logiciel vont, ne voudront plus l'enlever après, en fait. Parce que plus il y a de caméras de vidéosurveillance, plus c'est difficile bah, pour eux de les, toutes les surveiller. Du coup, ils ont envie d'avoir un logiciel qui les aide dans, cette, dans ce travail. Et du coup, bah voilà, on sait pas trop encore où, quand, comment, même si on a une idée que ce sera à peu près là sur tous les sites des Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby. En tout cas, ils seront un peu obligés de visibiliser le fait par décret, le fait qu'ils utilisent, enfin voilà, qu'il y aura, qu'on rentrera dans une zone où c'est déjà utilisé. Mais faut pas oublier, voilà, que comme je disais tout à l'heure, hein, que c'est déjà utilisé à certains endroits. Et au-delà du fait, au-delà de cette loi, les Jeux Olympiques, ça a donné un petit coup de boost, disons, à l'installation encore de nouvelles caméras. Pour Paris, il va y en avoir. Bon, alors voilà, Darmanin, il en a annoncé 500 pour les Jeux Olympiques. Pour l'instant, on n'en voit pas, on les voit pas, et tant mieux. Et en tout cas, la mairie de Paris en a annoncé, je crois, environ une centaine ou un peu plus qui seront installées spécifiquement aux abords des zones des Jeux Olympiques. Et voilà.
Et moi, je voulais continuer sur la sécurisation en parlant aussi de l'augmentation de la sécurité qu'il va y avoir au moment même des JO, c'est-à-dire avec les flics, la sécurité et potentiellement l'armée. Au niveau des flics, va y avoir il y a beaucoup de chiffres différents, mais en tout cas, il va y avoir besoin de beaucoup de il y a beaucoup de policiers qui vont être mobilisés, notamment pendant au plus haut pendant la cérémonie d'ouverture, mais qui vont être mobilisés en continu pendant ces JO. Et va y avoir aussi 7 nouvelles unités mobiles et 3000 nouveaux policiers et gendarmes sur le terrain, avec donc ça c'est au niveau de la police. Au niveau de la sécurité privée, en fait, va y avoir des grands besoins de sécurité privée pour notamment par exemple fouiller les personnes, fouiller les sacs, faire ce genre contrôler les abords des lieux de manifestations sportives. Et du coup, on estime qu'il y a besoin à peu près de... Enfin, le gouvernement estime qu'il y a besoin de 30 000 personnes pour la sécurité privée. Et donc, il y a un appel d'offres qui a été lancé. Mais a priori, en fait, le secteur de la sécurité privée, il n'y a pas assez de personnes pour répondre à cette demande. Et donc, pour pallier à ce manque, en fait, il y a le gouvernement qui cherche à recruter massivement dans le domaine de la sécurité privée. Donc, c'est à la fois toucher les jeunes, les étudiants, donc en proposant des formations accélérées. Voilà, qu'il y a des formations pour avoir un certain certificat de qualification professionnelle où la formation, elle va durer 3 semaines, dont 2 semaines en présentiel et 1 semaine en distanciel, donc ce qui est moins que la formation officielle que la formation complète pour la sécurité privée. Et ça sera du coup un titre provisoire pour exercer ce métier qui durera notamment le temps des JO. Et donc, pour inciter les jeunes et les étudiants, donc va y avoir aussi ça va être rémunéré, cette formation. L'État cherche aussi à recruter massivement des personnes qui cherchent un emploi. Et du coup, avec Pôle emploi. Et du coup, Pôle emploi va proposer aussi des formations pour devenir agent de sécurité. Et en fait, Pôle emploi, je me suis perdue dans mes notes, désolée. Pôle emploi va mettre en place des ateliers pour voir, pour inscrire des gens à des formations, pour faire découvrir aux gens les métiers de la sécurité. Et ça va avec toujours plus de pression pour que les personnes qui sont au chômage trouvent un emploi. Et du coup, refuser aussi des formations, des offres d'emploi dans ce domaine, ça peut être préjudiciable pour les personnes. Et voilà. Et au niveau de l'armée, il y aurait peut-être 10 000 militaires qui seraient mobilisés pour les JO. Et donc ça serait notamment des militaires de l'opération Sentinelle, où du coup ils patrouilleraient dans des lieux de passage, dans les gares, les gares de métro, les aéroports. Et ils vont peut-être aussi devoir, du coup, si les 30 000 personnes, les 30 000 agents de sécurité ne sont pas à trouver, faire aussi, assurer des missions aussi de la sécurité privée. Donc voilà, ça va faire un renforcement toujours plus de personnes formées et de personnes de keufs de l'armée et de la sécurité privée qui seront concentrées à un moment à Paris à ce moment-là. Et voilà. Et du coup, on peut continuer en écoutant une musique, Asado de Fa de Sarah Ebe.
donde manda capitán, capitán. Muere, 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 muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. A un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. De un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir. Directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, pasa. Asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha. Que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura. Esto es fumia rap contra toda dictadura. Todo lo que sos me parece una hermosura. No seas cabeza dura, vení, que esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres, moderna de concreto. Que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. Fuck, no quiero más policía. Asado, de paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Un asado, me paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Un asado,
un saludo paso, para mi amigo el Valencia, para allá, para acá.
Alix, tu voulais nous rajouter un truc sur la surveillance et l'influence des JO, de ce qui va se passer en Seine-Saint-Denis.
Juste un point rapide, enfin, c'était juste pour dire sur la vidéosurveillance. Du coup, il y a aussi un centre de supervision qui a été inauguré en 2021 à Saint-Denis. Et du coup, ce centre, il a aussi été construit parce qu'il y avait la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques. Sinon, il n'aurait pas forcément vu le jour ou pas forcément aussi vite. Et qui a pour objectif de monter jusqu'à 400 caméras à l'horizon 2024. Du coup, c'est assez énorme. On ne sait pas si ça va vraiment être jusqu'à 400, mais il y en a déjà de plus en plus. Et du coup, non seulement, la loi olympique, elle permet de rajouter des caméras plus intelligentes, enfin de changer les trucs autour de la législation, autour de la vidéosurveillance, mais aussi en termes du coup de nombre de ce qui est déjà autorisé. La perspective des jeux, ça a fait augmenter fortement le parc de caméras, quoi.
Et du coup, on arrive un peu à la fin de l'émission, de ce qu'on voulait dire un peu, enfin ce que là dans le temps qu'on avait, on voulait un peu dire sur la gentrification, la sécurisation et donc ce qui va se passer avec les JO, mais il y aurait encore beaucoup d'autres trucs à dire et on mettra un peu des liens sur ce dont on a parlé sur notre blog. Vous pouvez retrouver nos émissions qui est carapatage.noblogs.org
et sûrement au fur et à mesure que les JO approchent, il va y avoir Bah, y a déjà voilà, des collectifs, un collectif qu'on a déjà évoqué, d'autres collectifs qui ont produit des affiches. Il y a eu une mascotte anti-JO qui a été créée, qui est un hérisson. Et là, j'ai l'impression que avec le mouvement contre la réforme des retraites, il y a un peu des... Sur Internet, ça s'est un peu emballé en disant tant qu'il y aura les retraites, il n'y aura pas de JO. On espère que ça continuera. Que, bon, pour l'instant, il y a les retraites, mais si jamais il n'y a pas les retraites, bah, qu'il n'y ait quand même pas de JO. Que ce soit un bon moyen de pression aussi. Voilà, et que du coup, on imagine qu'il y aura toutes ces... que peut-être l'opposition un peu aux Jeux Olympiques, elle va être un peu plus visible au fur et à mesure que ça approche. Même si après, plus ça approche, plus c'est difficile.
Et on va finir du coup en écoutant une petite musique. Et donc ça va être Gosse des Villes, feat. Shymiz et Irasib de Rayam. Et voilà, bonne soirée, bon courage à ceux qui sont à l'intérieur. Et voilà.
Et on se retrouve pour une prochaine émission dans 2 semaines. Et voilà, ben, bonne soirée à tous, bon courage. À tous ceux et celles enfermés et à tous leurs proches dehors.
Bonne soirée.
Salut.
Donde manda capitán, muere, 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 muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. De a un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir. Directo de Gascón que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, pasa. Asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha.
Ça s'entasse, tout le monde s'en bat les reins. En vrai, personne se calcule, chacun dans sa bulle, ouais. Serré comme des sardines, odeur olfaction qui tue, ouais. Le nez dehors, inhalant le parfum de la ville. Ça respire à plein poumon, tabac, le gasoil et la piste. Tu gazes, toi, crotte, même les pigeons manquent de respect. Abat des ailes au-dessus des têtes, à croire qu'ils le font exprès. Les routes, les rues marchandes, les pistes cyclables, plein à craquer. Surpeuplé, ça s'embouteille, y'a de quoi en décourager. Plus d'une fois, ça marchande sur les marchés. À vive allure, ça marchait, j'alimente ce cliché. Les commerçants ont faim, oublient leur sourire comme ils dissonnent. Le client n'est plus loin, mais grâce à lui, il brasse de grosses sommes. Gosse des villes, non, juste une fois où vivent des pantins qui courent après le temps, par les temps qui courent, tous veulent se mettre bien. Gosse des villes, gosse des villes, chacun dans sa bulle, ouais. Gosse des villes, serré comme des sardines. Gosse des villes, gosse des villes, chacun dans sa bulle, ouais. Gosse des villes. Gosse des villes, Non, juste une poire ouverte.
On est des gosses, des villes versées au bruit des pompons. Des cris d'une femme sous les pompes, son compagnon. Des lobes, le pochetron, bistrot, mat les altercations. La police partout, allume dans son fourgon. La tête dans le guidon, guidé par la patte du diable. Petit citadin, même son train-train quotidien. On a des balcons en guise de jardin, fachou en guise de voisin. Le bruit, les odeurs, tu connais le refrain. Le bobo envahit le centre-ville, ne vit pas de péripéties. Poche vide, le polo à la périphérie, péri ici. Les bâtiments vides fleurissent nos avenues. À côté ça tu tombes des nus. Le haraga fait des allées venues. Les pubs polluent nos rues, nous rendent esclaves du capital. Captivés par le câble, les campagnards ont capte à bois. Camarades c'est triste, nos vies strictes nous stressent. Mènent au suicide du gosse des villes qui se défenestrent. Gosse des villes, gosse, gosse. Gosse des villes, percé au bruit des pop-pons. Gosse des villes. Les cris d'une femme sous les bombes, son compagnon. Gosse des villes, gosse, gosse. Des villes, percées au bruit des pompons. Gosse, des villes. Le bruit, les odeurs, tu connais le refrain.
Je suis né ici, mais j'aurais pu naître là-bas. Je connais le parvis de Paris, épargne-moi son fracas. Épargne-moi, épargne-moi. Ces immeubles en guise de murs de prison. Son béton obstrue ma vision, paysage sans ligne d'horizon. Et tous ces pigeons qui picorent les vitrines et qui ignorent le cynisme que m'inspire ce mode de vie. Si speed, moi, cause de la ville, comme si du béton coulait dans mes veines. Il nous ramène autour de Babel, ceux qui se rappellent du jardin d'Éden. Rêve de voir un potager sur le parvis de la défense. Une révolution totale pour un retour à notre essence. Demeure loin de la nature, chaque soir un ciel violet et dégueulasse. Viens prendre la place des étoiles, je vois ça, tu sais. 7ème étage, marre des parages, il n'est pas rare quand je vois une image du Canada ou des grands espaces que je me dis quand est-ce que je me barre là-bas. Malgré tout, je l'aime cette ville aux excès de vitesse inévitable, activité illimitée. Ouais, pour moi, c'est vital.
Gosse des villes, gosse, gosse, gosse des villes.
Des immeubles en guise de murs de prison.
Gosse des villes. Gosse des villes, gosse, gosse. Des villes,
des immeubles en guise de murs de prison.
Des villes.
Malgré tout, je l'aime cette ville.
Carapatage, une émission contre toutes les cages.
Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage,
contre toutes les cages.